un ordre imaginaire. De pair avec les nouveaux moyens de transport, les excédents de nourriture permirent à de plus en plus de gens de s'entasser dans des grands villages, puis dans des bourgs, et enfin dans des villes, tous unis par des royaumes et des réseaux commerciaux. Pour tirer parti de ces nouvelles opportunités, excédents alimentaires et amélioration des transports ne suffisaient pourtant pas. Le simple fait de pouvoir nourrir 1000 habitants dans le même bourg ou 1 million de gens dans le même royaume ne garantit pas qu'ils puissent s'entendre sur le partage de la terre et de l'eau, le règlement des différends et des conflits et la manière d'agir en temps de sécheresse ou de guerre. Et si aucun accord n'est trouvé, le conflit se propage, même si les entrepôts regorgent de vivres. Les pénuries alimentaires ne sont pas à l'origine de la plupart des guerres et des révolutions de l'histoire. Ce sont des avocats aisés qui ont été le fer de lance de la Révolution française, non pas des paysans faméliques. La République romaine atteignit le fait de sa puissance au 1er siècle avant notre ère, quand des flottes chargées de trésors de toute la Méditerranée enrichirent les Romains au-delà des rêves les plus fous de leurs ancêtres. Or, c'est à ce moment d'abondance maximale que l'ordre politique romain s'effondra dans une série de guerres civiles meurtrières. La Yougoslavie de 1991 avait largement de quoi nourrir tous ses habitants, ce qui ne l'empêcha pas de se désintégrer en un terrible bain de sang. Le problème qui est à la racine de ces calamités est que des millions d'années durant, les hommes évoluèrent en petites bandes de douzaines d'individus. Les quelques millénaires qui séparent la révolution agricole de l'apparition des villes, des royaumes et des empires n'ont pas laissé assez de temps pour qu'un instinct de coopération s'épanouisse. Malgré l'absence de tels instincts biologiques, les mythes partagés permirent à des centaines d'inconnus de coopérer à l'époque des fourrageurs. Mais cette coopération restait vague et limitée. Toutes les bandes de sapiens n'en continuèrent pas moins à mener leur vie indépendamment et à satisfaire elles-mêmes leurs propres besoins. Voici 20 000 ans. Un sociologue archaïque, ignorant tout de ce qui allait suivre la révolution agricole, aurait fort bien pu conclure que la mythologie avait un champ assez limité. Les histoires d'esprits ancestraux et de totems tribaux étaient assez fortes pour permettre à 500 personnes d'échanger des coquillages, célébrer une fête et joindre leurs forces pour éliminer une bande de Néandertals, mais pas plus. L'ancien sociologue aurait conclu que jamais la mythologie ne pourrait permettre à des millions d'inconnus de coopérer au quotidien. Ce qui était faux. Il apparut que les mythes étaient plus forts qu'on aurait pu l'imaginer. Quand la révolution agricole ouvrit la possibilité de créer des villes très peuplées et de puissants empires, les gens inventèrent des histoires de grands dieux, des mères patries et des sociétés par action pour assurer les liens sociaux nécessaires. Alors que l'évolution humaine suivait son cours d'escargot habituel, l'imagination construisait de stupéfiants réseaux de coopération de masse tels qu'on n'en avait encore jamais vu sur Terre. Autour de 8500 avant l'ère commune, les plus grandes colonies de peuplement du monde étaient des villages comme Jéricho, qui comptait quelques centaines d'individus. En 7000 avant notre ère, la ville de Çatalhöyük, en Anatolie, comptait entre 5000 et 10 000 habitants. Peut-être était-ce alors la plus grande agglomération du monde. Au 5e et 4e millénaire, des villes comptant plusieurs dizaines de milliers d'habitants surgirent dans le croissant fertile, chacune dominant à son tour une multitude de villages voisins. En 3100 avant notre ère, toute la vallée du Nil inférieur était unie dans le premier royaume égyptien. Les pharaons régnaient sur des milliers de kilomètres carrés et des centaines de milliers de gens. Autour de 2250 avant Jésus-Christ, Sargon fonda le premier empire, l'empire d'Akkad, fort d'un million de sujets et d'une armée permanente de 5400 soldats. Entre 1000 et 500 apparurent au Moyen-Orient les premiers méga-empires. L'empire néo-assyrien, l'empire babylonien et l'empire perse, à la tête de plusieurs millions de sujets et commandant des dizaines de milliers de soldats. En 221 avant notre ère, la dynastie Qin unit la Chine. Peu après, ce fut au tour de Rome d'unir le bassin méditerranéen. Les impôts levés par les Qin sur leurs 40 millions de sujets financèrent une armée permanente de centaines de milliers de soldats et une bureaucratie complexe forte de plus de 100 000 fonctionnaires. À son zénith, l'Empire romain collectait des impôts auprès de 100 millions de sujets. Ces recettes financèrent une armée permanente de 250 000 à 500 000 soldats, un réseau de routes encore utilisé 1500 ans plus tard, ainsi que des théâtres et des amphithéâtres où l'on donne encore des spectacles. Sans doute est-ce impressionnant, mais gardons-nous de toute illusion idyllique sur les réseaux de coopération de masse tels que l'Égypte pharaonique ou l'Empire romain. Coopération paraît très altruiste, mais celle-ci n'est pas toujours volontaire et elle est rarement égalitaire. La plupart des réseaux de coopération humaine reposent sur l'oppression et l'exploitation. Ce sont les paysans qui payèrent les réseaux de coopération foisonnant avec leurs précieux excédents alimentaires, désespérant de voir les collecteurs d'impôts éponger d'un seul coup de plume impériale une année entière de dur labeur. Les fameux amphithéâtres romains ont été souvent construits par des esclaves pour permettre à de riches romains oisifs de regarder d'autres esclaves s'affronter dans de terribles combats de gladiateurs. Même les prisons et les camps de concentration sont des réseaux de coopération et ne peuvent fonctionner que parce que des milliers d'inconnus parviennent tant bien que mal à coordonner leurs actions. Tous ces réseaux de coopération, des villes mésopotamiennes jusqu'aux empires, kines et romains, étaient des ordres imaginaires. Les normes sociales qui les sous-tendaient ne reposaient ni sur des instincts enracinés, ni sur des connaissances personnelles, mais sur l'adhésion à des mythes partagés. Comment des mythes peuvent-ils soutenir des empires entiers? Nous avons déjà traité d'un exemple de ce genre, Peugeot. Arrêtons-nous maintenant sur deux des mythes les mieux connus de l'histoire. Le code d'Hammurabi, autour de 1776 avant notre ère, qui servit de manuel de coopération à des centaines de milliers d'anciens babyloniens, et la déclaration d'indépendance américaine, en 1776, qui reste le manuel de coopération de centaines de millions d'Américains modernes. En 1776 avant notre ère, Babylone était la plus grande ville du monde. Avec plus d'un million de sujets, l'Empire babylonien était probablement le plus vaste du monde. Il gouvernait la majeure partie de la Mésopotamie, dont le gros de l'Irak moderne, ainsi que des parties de la Syrie et de l'Iran actuel. Le roi de Babylone, le plus connu de nos jours, est Hammurabi. Sa gloire tient avant tout au texte qui porte son nom, le Code d'Hammurabi, un recueil de ses lois et décisions de justice. Son propos est de présenter ce code comme le modèle de rôle du roi juste, d'en faire la base d'un système juridique plus uniforme à travers l'Empire babylonien et d'enseigner aux générations futures ce qu'est la justice et comment agit un roi juste. Les générations suivantes y prêtèrent attention. L'élite intellectuelle et bureaucratique de Mésopotamie canonisa le texte et les apprentis scribes continuèrent de le copier longtemps après la mort d'Hammurabi et la ruine de son empire. Ce code est donc une bonne source pour comprendre les Mésopotamiens anciens et leur idéal en matière d'ordre social. Le texte commence par dire que les dieux Anum, Enlil et Marduk, les principales divinités du panthéon mésopotamien, chargèrent Hammurabi de proclamer le droit dans le pays pour éliminer le mauvais et le pervers, pour que le fort n'opprime pas le faible. Suivent près de 300 jugements. Toujours rendu suivant une formule consacrée. S'il se passe telle ou telle chose, le jugement est. Voici par exemple les jugements 196 à 199 et 209 à 214. 196. Si quelqu'un a crevé l'œil d'un homme libre, on lui crèvera l'œil. 197. S'il a brisé l'os d'un homme libre, on lui brisera l'os. 198. S'il a crevé l'œil d'un mouchkénou, entre homme libre et esclave, ou brisé l'os d'un mouchkénou, il pèsera une mine d'argent. 199. S'il a crevé l'œil de l'esclave d'un particulier, ou brisé l'os de l'esclave d'un particulier, il pèsera la moitié de son prix. 209. Si quelqu'un a frappé quelque femme libre, et s'il lui a fait expulser le fruit de son sein, il pèsera 10 cycles d'argent pour le fruit de son sein. 210. Si cette femme est morte, on tuera sa fille. 211. Si c'est à quelque femme mouchkénou que, à la suite d'un coup, il a fait expulser le fruit de son sein, il pèsera 5 cycles d'argent. 212. Si cette femme est morte, il pèsera 1/2 mine d'argent. 213. Si c'est une esclave de particulier qui l'a frappée et à qui il a fait expulser le fruit de son sein, il pèsera 2 cycles d'argent. 214. Si cette esclave est morte, il pèsera 1/3 de mine d'argent. Après avoir donné la liste de ces jugements, le Code redit que telles sont les prescriptions du droit que Hammurabi, le roi puissant, a solidement établi et qu'il a fait prendre au pays comme une voie sûre et une direction excellente. Je suis Hammurabi, le roi parfait. Pour les populations qu'Enlil m'a données et dont Marbouk m'a remis le pastorat, je n'ai pas été négligent. Je n'ai pas laissé tomber le bras. L'ordre social babylonien, affirme le Code d'Hammurabi, s'enracine dans les principes universels et éternels de justice dictés par les dieux. Le principe de la hiérarchie est d'une suprême importance. Suivant le Code, les gens sont divisés en 2 sexes et 3 classes, les hommes libres, les roturiers et les esclaves. Les membres de chaque classe et de chaque sexe ont des valeurs différentes. La vie d'une femme de la catégorie intermédiaire vaut 30 cycles d'argent, celle d'une esclave 20, tandis que l'œil d'un homme de la catégorie intermédiaire en vaut 60. Le Code établit aussi, au sein des familles, une hiérarchie stricte où les enfants ne sont pas des personnes indépendantes, mais la propriété de leurs parents. Dès lors, si un homme libre tue la fille d'un autre homme libre, la fille du meurtrier sera exécutée en châtiment. Il peut nous paraître étrange qu'il ne soit fait aucun mal au tueur dont la fille innocente est tuée à sa place. Mais la chose était parfaitement juste aux yeux d'Hammurabi et des Babyloniens. Le Code d'Hammurabi reposait sur l'idée que si tous les sujets du roi acceptaient leur position au sein de la hiérarchie et agissaient en conséquence, le 1 000 000 d'habitants de l'Empire pourraient coopérer efficacement. Leur société pourrait alors produire assez de vivres pour ses membres, les distribuer efficacement, se protéger contre ses ennemis et étendre son territoire en sorte d'acquérir plus de richesses et de mieux assurer sa sécurité. Environ 3500 ans après la mort d'Hammurabi, les habitants de 13 colonies britanniques d'Amérique du Nord eurent le sentiment que le roi d'Angleterre les traitait injustement. Leurs représentants se réunirent à Philadelphie et le 4 juillet 1776, les colonies décidèrent que leurs habitants n'étaient plus sujets de la couronne britannique. La déclaration d'indépendance proclamait des principes universels et éternels de justice qui, comme ceux d'Hammurabi, s'inspiraient d'une force divine. Mais le principe le plus important dicté par le dieu américain était précisément un peu différent du principe édicté par les dieux de Babylone. Ainsi, lit-on dans la Déclaration d'indépendance. Nous tenons pour évidentes par elles-mêmes les vérités suivantes. Tous les hommes sont créés égaux. Ils sont doués par le Créateur de certains droits inaliénables. Parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté et la recherche du bonheur. Traduction de Thomas Jefferson. Comme le Code d'Hammurabi, le texte fondateur américain promet que, si les hommes se conforment à ces principes sacrés, ils seront des millions à pouvoir coopérer efficacement, à vivre en sécurité et paisiblement dans une société juste et prospère. De même que le Code d'Hammurabi, la Déclaration d'indépendance n'était pas simplement un document ancré dans une époque et dans un lieu. Les générations futures devaient l'accepter également. Depuis plus de 2 siècles, les petits écoliers américains la recopient et la prennent par cœur. Les deux textes nous mettent en présence d'un dilemme évident. Le Code d'Hammurabi, comme la Déclaration d'indépendance américaine, prétendent tous deux esquisser des principes de justice universelle et éternelle. Mais selon les Américains, tous les hommes sont égaux, alors qu'ils sont résolument inégaux pour les Babyloniens. Bien entendu, les Américains diraient qu'ils ont raison, qu'Hammurabi se trompe. Naturellement, Hammurabi protesterait qu'il a raison et que les Américains ont tort. En fait, Hammurabi et les pères fondateurs américains imaginaient pareillement une réalité gouvernée par des principes universels et immuables de justice comme l'égalité ou la hiérarchie. Or, ces principes universels n'existent nulle part ailleurs que dans l'imagination fertile des sapiens et dans les mythes qu'ils inventent et se racontent. Ces principes n'ont aucune validité objective. Il nous est facile d'accepter que la division en hommes supérieurs et en commun des mortels est un caprice de l'imagination. Pourtant, l'idée que tous les humains sont égaux est aussi un mythe. En quel sens les hommes sont-ils égaux les uns aux autres? Existe-t-il, hors de l'imagination humaine, une réalité objective dans laquelle nous soyons véritablement égaux? Tous les hommes sont-ils biologiquement égaux? Essayons donc de traduire en termes biologiques le fameux passage de la Déclaration d'indépendance des États-Unis. Nous tenons pour évidentes par elles-mêmes les vérités suivantes. Tous les hommes sont créés égaux. Ils sont doués par le Créateur de certains droits inaliénables. Parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté et la recherche du bonheur. Pour la biologie, les hommes n'ont pas été créés. Ils ont évolué. Et ils n'ont certainement pas évolué vers l'égalité. L'idée d'égalité est inextricablement mêlée à celle de création. Les Américains tenaient l'idée d'égalité du christianisme, pour lequel chaque homme est pourvu d'une âme créée par Dieu, et toutes les âmes sont égales devant Dieu. Mais si nous ne croyons pas au mythe chrétien sur Dieu, la création et les âmes, que signifie « tous les hommes sont égaux » ? L'évolution repose sur la différence, non pas sur l'égalité. Chacun est porteur d'un code génétique légèrement différent et, dès la naissance, se trouve exposé aux influences différentes de son environnement. Tout cela se traduit par le développement de qualités différentes qui sont porteuses de chances de survie différentes. Créer égaux doit donc se traduire par « ont évolué différemment ». De même que les hommes n'ont jamais été créés, de même pour la biologie, il n'y a pas non plus de créateur qui les dote de quoi que ce soit. Il y a juste un processus d'évolution aveugle, sans dessein particulier, qui conduit à la naissance d'individus, doués par le Créateur doit se traduire tout simplement par « né ». Il n'existe rien qui ressemble à des droits en biologie, juste des organes, des facultés et des traits caractéristiques. Si les oiseaux volent, ce n'est pas qu'ils aient le droit de voler, mais parce qu'ils ont des ailes. Et il n'est pas vrai que ces organes, ces facultés et ces caractéristiques soient inaliénables. Beaucoup subissent des mutations constantes et peuvent se perdre totalement au fil du temps. L'autruche est un oiseau qui a perdu sa capacité de voler. Il convient donc de traduire les droits inaliénables en caractéristiques muables. Et quelles caractéristiques ont évolué chez les êtres humains? La vie, assurément. Mais la liberté, il n'existe rien de tel en biologie. De même que l'égalité, les droits et les sociétés à responsabilité limitée, la liberté est une invention des hommes et qui n'existe que dans leur imagination. D'un point de vue biologique, il n'y a pas de sens à dire que les hommes des sociétés démocratiques sont libres, mais qu'ils ne le sont pas sous une dictature. Et le bonheur? Jusqu'ici, la recherche biologique n'a pas su trouver de définition claire du bonheur, ni un moyen de le mesurer objectivement. La plupart des études biologiques reconnaissent uniquement l'existence du plaisir, qui se laisse plus aisément définir et mesurer. Il faut donc traduire la vie, la liberté et la recherche du bonheur en vie et recherche du plaisir. Voici donc traduit en langage biologique le passage de la Déclaration d'indépendance. Nous tenons pour évidentes par elles-mêmes les vérités suivantes. Tous les hommes ont évolué différemment. Ils sont nés avec certaines caractéristiques muables. Parmi ces caractéristiques se trouvent la vie et la recherche du plaisir. Cette forme de raisonnement ne manquera pas de scandaliser les tenants de l'égalité et des droits de l'homme, qui rétorqueront sans doute « Nous savons bien que les hommes ne sont pas égaux biologiquement ». Mais si nous croyons que nous sommes tous foncièrement égaux, cela nous permettra de créer une société stable et prospère. Je n'ai pas d'objection. C'est exactement ce que j'appelle ordre imaginaire. Nous croyons à un ordre particulier, non qu'il soit objectivement vrai, mais parce qu'y croire nous permet de coopérer efficacement et de forger une société meilleure. Les ordres imaginaires ne sont ni des conspirations exécrables, ni de vains mirages. Ils sont plutôt la seule façon pour les hommes de coopérer effectivement. Mais ne perdez pas de vue qu'Hammurabi aurait pu défendre son principe hiérarchique en usant de la même logique. Je sais bien que les hommes libres, les hommes intermédiaires et les esclaves ne sont pas des espèces par nature différentes. Mais si nous croyons qu'ils le sont, cela nous permettra de créer une société stable et prospère.